journal de la nuit, c'est avec vous Chanel Petit. Bonsoir Chanel.
Bonsoir Marlène, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, c'était l'une des mesures phares de la réforme du Code du travail portée par Emmanuel Macron, le plafonnement des indemnités prud'homales pour les licenciements abusifs. La Cour de cassation l'a validé aujourd'hui. Victoire pour le gouvernement. Très bonne nouvelle, dit la ministre du Travail. Aberrant, dit la CGT, nous les entendrons. Le ministère de la Transition écologique change de capitaine. Elisabeth Borne en prend la tête après la démission de François de Rugy, empêtré dans plusieurs affaires révélées par Mediapart. Lors de la passation de pouvoir aujourd'hui, de Rugy, ému, a défendu son bilan. Un chiffre dévoilé aujourd'hui, combien les gilets jaunes en révolte ont coûté au pays. La mission parlementaire nous présente aujourd'hui la facture. Elle est salée. 2500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris vendredi soir. Pas de fan zone, gros dispositif de sécurité pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, annonce le préfet de police. Ce n'est pas le constructeur, mais bel et bien la compagnie qui se retrouve dans le collimateur de la justice. Dans le procès à venir du crash du Rio Paris, le parquet poursuit Air France pour défaut d'information. SOS Homophobie salue un pas en avant vers une égalité de traitement. La réduction de la durée d'abstinence imposée aux hommes homosexuels pour donner leur sang, elle passe de 1 an à 4 mois. Aucun risque supplémentaire de transmission du VIH, assure l'établissement français du sang. Sur la route du Tour de France, l'arrivée de la 11e étape aujourd'hui à Toulouse s'est jouée au sprint. Victoire de Caleb Ewan, c'est un Australien. Le Français Julian Alaphilippe conserve lui son maillot jaune. Et puis il vise la première place au box-office du cinéma en France avec près de 1000 copies. Aujourd'hui en salle, un quart de siècle plus tard, Simba est de retour. Le Roi Lion en version totalement numérisée et ça cartonne déjà. Côté météo, changement de décor. Sur le nord-ouest, demain, des nuages et des plus éparses. Soleil sur toutes les autres régions. Demain après-midi, il fera 20 degrés à Boulogne-sur-Mer, 25 à Bordeaux, 26 à Paris, 35 à Nîmes et à Avignon.
Europe 1.
C'est une victoire pour le gouvernement. La Cour de cassation valide aujourd'hui le plafonnement des indemnités pour licenciements abusifs. Une mesure phare du début du quinquennat Macron. La plus haute juridiction, saisie par des conseils de prud'hommes, estime que le barème défini par les ordonnances travail est bien compatible avec les textes internationaux ratifiés par la France. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, s'en félicite.
C'est une bonne nouvelle pour les salariés et pour les entreprises d'avoir un cadre juridique qui est clair. C'est rassurant, on sait à quoi s'en tenir et donc ça va permettre une meilleure sécurité juridique pour les salariés et pour les entreprises. Et puis c'est une très bonne nouvelle pour l'emploi. Pourquoi ? Parce que qui crée des emplois dans notre pays ? Principalement les petites et les moyennes entreprises. Et là, c'est définitif avec l'avis de la Cour de cassation. Oui, les entreprises, vous n'avez plus peur d'embaucher, vous pouvez embaucher. On a une belle dynamique d'emploi, 93 000 emplois depuis le début de l'année, 1,5 million depuis 2 ans. Continuons à faire baisser le chômage pour les entreprises et puis pour tous les demandeurs d'emploi qui attendent un travail.
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, avec Maud Descamps. En revanche, pour Bertrand Augier, vice-président de la CGT du Conseil des Prud'hommes de Lyon, cette validation de la Cour de cassation est une très mauvaise nouvelle.
C'est une déception pour les milliers de salariés qui s'adressent à la justice prud'homale. L'analyse politique qu'on peut en faire, c'est que malheureusement, les employeurs vont continuer à licencier les salariés, sachant bien évidemment à l'avance combien risquent, entre guillemets, de leur côté de contentieux. Puis deuxièmement, l'effet pervers, mais qui était voulu, entre guillemets, par Macron et par son gouvernement, c'est de limiter les saisines des conseils de prud'homme. Que le salarié qui a été licencié sait qu'il va faire une procédure où déjà le barème lui encadre, entre guillemets, le montant des dommages et intérêts. S'il n'a pas beaucoup d'ancienneté, le salarié n'a pas intérêt, entre guillemets, ou il n'a pas la volonté d'engager une procédure, peut-être même avec un avocat qui lui coûtera de l'argent et du temps, sachant qu'au bout, le préjudice ne sera pas apprécié à sa juste valeur.
Bertrand Augier, le vice-président CGT des conseils des prud'hommes de Lyon. L'image de la journée, la passation de pouvoir cet après-midi au ministère de la Transition écologique et solidaire. François de Rugy, épinglé par Mediapart pour son train de vie et pour l'utilisation de ses frais de mandat, a donc laissé sa place à Elisabeth Borne, déjà ministre des Transports. Le désormais ex-numéro 2 du gouvernement a pris la parole sur le perron du ministère pour la dernière fois.
Je crois qu'aucune maladresse commise, aucune erreur regretter et payer au prix le plus élevé et le plus cruel ne peut venir effacer les actes posés, les avancées réalisées, les moyens dégagés pour mener concrètement une politique de progrès écologique. Et croyez-moi, ici, dans ce ministère, la bataille des moyens est une bataille de tous les instants. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. Elle se juge aux actions et aux réalisations.
François de Rugy au micro Europe 1 de Virginie Riva. Et c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Il y a désormais plus de femmes que d'hommes au gouvernement, comptant le Premier ministre. 18 femmes pour 17 hommes. Elles restent toutefois moins nombreuses au poste de ministre de plein exercice et surreprésentées chez les secrétaires d'État. Le ministère de la Culture refuse et rembourse un mécénat de 200 000 euros de Lafarge. Le groupe cimentier participait aux travaux du Musée national du Moyen-Âge à Cluny. Pas de précision officielle pour les raisons, mais Lafarge est soupçonnée d'avoir versé de l'argent au groupe État islamique pour maintenir son activité en Syrie. Dégâts matériels, manque à gagner pour les commerces des centres-villes. Le mouvement des Gilets jaunes a coûté plusieurs centaines de millions d'euros à l'économie française, selon un rapport de la mission d'information parlementaire. Le coût global est évalué à 0,1 point du PIB au dernier trimestre de l'année 2018. Ça paraît énorme, mais ce ne serait en fait pas si terrible que ça, d'après Damien Abad, le président de la commission Impact Gilets jaunes.
Quand on regarde les choses d'un point de vue macroéconomique, on se rend compte effectivement que l'impact n'est pas désastreux, même si 2 milliards d'euros, c'est important. Mais quand on regarde les choses d'un point de vue micro, on constate des détresses personnelles, des défaillances d'entreprises, des commerçants qui doivent mettre la clé sous la porte. Derrière les statistiques, il y a une réalité qui est beaucoup plus sombre.
Pour vous, ce sont les commerçants, et notamment ceux de centre-ville, qui sont en première ligne dans ces détresses individuelles que vous évoquez.
Oui, on a eu l'occasion avec les co-rapporteurs de faire un certain nombre de déplacements dans les grandes villes qui ont été particulièrement touchées, à Rouen, à Toulouse ou encore à Bordeaux cette semaine. Et à chaque fois, nous avons constaté effectivement un transfert d'habitudes des consommations qui vont du centre-ville vers la périphérie. C'est-à-dire que les consommateurs se sont adaptés finalement au contexte local. Et effectivement, il y a eu une perdition pour le commerce de centre-ville, le commerce de proximité, d'où l'importance de prévoir un plan de redynamisation du centre-ville. Et au-delà de ça, tous les commerçants nous demandaient aussi une chose, c'est celle qui consiste à assurer la sécurité et l'ordre public partout sur le territoire national.
Damien Abad, député de l'Ain et président de la mission Impact Gilets jaunes, il était tout à l'heure l'invité de François Claus. C'est repoussé à la semaine prochaine. Le vote solennel de ratification du CETA, ce traité de libre-échange avec l'Union européenne et le Canada, décision prise à l'initiative de l'opposition pour éviter un vote tard dans la nuit ce soir. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a défendu tout à l'heure un accord important face à un climat préoccupant dans les échanges entre États.
Europe 1.
Le coup d'envoi, c'était il y a une heure, la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Tunisie et le Nigeria. La grande, c'est vendredi soir, Algérie-Sénégal. Finale qui pourrait être suivie d'incidents, du moins c'est ce que craignent les autorités. Et lui, il ne s'était pas exprimé depuis les incidents du 11 juillet au soir de la victoire de l'Algérie en demi-finale. Lui, c'est le préfet de Paris, Didier Lallement. Et Jean-Sébastien Soldaini, il est donc revenu, il a évoqué ces incidents pour la première fois aujourd'hui.
Exactement, et le préfet de police a admis que ce 11 juillet a été une soirée difficile lorsque la fête des supporters algériens se déplace vers la venue de la Grande Armée. Des magasins sont vandalisés, des motos sont volées, mais les enquêtes, dit-il, ont vite abouti.
Sur cette dizaine de motos volées, nous les avons toutes retrouvées sauf une et qu'un grand nombre de personnes ont été présentées à la justice. Je tiens d'ailleurs à signaler, monter sur des voitures qui roulent, c'est assez dangereux et pas très malin. Faire des wheelings avec son deux roues au milieu de la foule, c'est dangereux et pas très malin. Nous avons fait beaucoup de vidéo-verbalisation. Et donc ceux qui n'ont pas eu ces comportements réguliers vont commencer à recevoir maintenant assez vite un certain nombre de contraventions. Mais nous n'intervenons pas dans ces cas-là dans la foule, parce que nous ne voulons pas, je ne veux pas provoquer des mouvements de foule. Mais il ne faut pas penser que tout ça se fait en toute impunité.
La soirée du 14 juillet est plus calme à Paris après la demi-finale de la CAN. Peu d'incidents, c'est pourquoi il veut reconduire exactement le même dispositif. 2500 policiers répartis entre la place de la Concorde et la porte Maillot. Pas de fan zone, car le préfet de police considère qu'elle servirait uniquement à sécuriser la diffusion du match, pas à contenir d'éventuels débordements après le coup de sifflet final.
Merci Jean-Sébastien Soldaini. Ce serait donc à l'arrivée un procès sans le constructeur de l'avion Airbus. Et c'est pourtant l'histoire de la plus meurtrière des catastrophes aériennes de l'histoire française. Le crash du Rio-Paris en 2009, 228 morts. On l'a appris aujourd'hui, pas de poursuite contre Airbus. C'est l'avis du parquet. En revanche, la compagnie Air France devra s'exprimer. Une lecture du dossier Chloé Triomphe qui ne va pas satisfaire, on l'imagine, les familles de victimes.
Oui, effectivement, parce que les familles des victimes et leurs avocats sont très déçus par ce choix. Elles estiment qu'avec un procès sans les deux parties, eh bien, beaucoup de questions resteraient sans réponse. On rappelle que l'accident est dû au givrage en vol des sondes dites sondes Pitot à haute altitude de vol, ce qui a conduit à un dérèglement des mesures de vitesse de l'Airbus A330 et qui a désorienté les pilotes. Alors, les procureurs estiment qu'il y a suffisamment de charges contre la compagnie aérienne pour négligence et imprudence, notamment pour n'avoir pas assez informé ses pilotes de la procédure d'urgence à adopter dans ce cas. Mais à l'inverse, ils affirment qu'il n'y a pas assez d'éléments pour renvoyer aussi l'avionneur Airbus devant un tribunal. Ils se sont pour cela appuyés sur différents rapports d'expertise, dont le dernier tendait à renvoyer la faute simplement sur l'équipage et sur sa réaction inappropriée. Alors les parties civiles ont maintenant un mois pour faire leurs observations et puis le mot de la fin surtout reviendra au juge d'instruction. Ce sont eux qui décideront d'ici cet automne qui devra être jugé pour ce drame, vous l'avez dit, le plus meurtrier de l'histoire d'Air France.
Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Lui pourrait passer le restant de ses jours derrière les barreaux. Le célèbre narcotrafiquant El Chapo, condamné à perpétuité par le tribunal de New York cet après-midi, ses avocats vont faire appel. Cet hommage maintenant, des fleurs, des peluches et des ballons rouges en forme de cœur. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce soir près de la gare d'Avenay-Val-d'Or dans la Marne. Un dernier adieu pour l'assistante maternelle et les trois enfants morts lundi lors d'une collision entre leur voiture et un TER. L'accident a eu lieu sur un passage à niveau dans cette petite commune près d'Épernay où le choc était grand et l'émotion ce soir très forte. Romain Oquet.
Les cris, les sanglots des familles endeuillées brisent le silence qui règne sur la place de la gare. Le père, la grand-mère, le petit frère des quatre victimes de l'accident, agenouillés, effondrés dans le petit square qui borde les rails. Ils y déposent des fleurs blanches, des peluches, des bougies. Derrière les familles, environ 300 habitants sont rassemblés. Les yeux rougis, la tête sur l'épaule d'un proche, Jean voulait apporter son soutien.
Nous sommes bien sûr particulièrement tristes et d'un autre côté heureux de pouvoir entourer les familles, de pouvoir leur manifester notre affection, notre soutien. C'est un drame épouvantable. Moi-même, j'ai été père de famille, je suis grand-père. Je crois que perdre un enfant, il n'y a rien de plus douloureux pour un homme. Nous sommes tous solidaires dans cette douleur.
Une douleur, un traumatisme dans un village où tous se connaissent. Les cloches résonnent, le maire Philippe Mossir prend la parole, égrène les noms des enfants et de la mère disparue. Le petit square de la gare deviendra le jardin du souvenir. Une plaque avec les prénoms des victimes sera installée. Un lieu de recueillement indispensable, explique le maire.
Nous avons pensé que ce petit square, qui est juste à côté du passage à niveau, était le mieux approprié et je pense que c'est là qu'il fallait le faire. En fait, ce sera le petit jardin du souvenir gravé pour l'éternité.
Une minute de silence clôture l'hommage, un instant où les habitants ne peuvent s'empêcher de regarder les deux barrières du passage à niveau à quelques mètres. Il a été réparé cet après-midi.
Le reportage de Romain Oquet à Avenay-Val-d'Or pour Europe 1. C'était une règle jugée discriminatoire par les associations. Pour pouvoir donner leur sang, les hommes homosexuels devaient jusqu'ici respecter une période d'abstinence d'un an. À partir de février prochain, ce sera 4 mois seulement. Alors, y a-t-il plus de risques de transmission du VIH ? Non, répond François Toujas, le président de l'établissement français du sang.
La mesure sera mise en œuvre à partir du 1er février. Nous devons changer les questionnaires, former un tout petit peu l'ensemble des équipes, parce qu'il est important d'accueillir correctement les donneurs. Parce que le sujet qui ne changera pas, c'est celui de la sécurité et de l'absolue nécessité que nous avons quotidiennement d'assurer la sécurité des receveurs, des produits et des donneurs. Nous testons toutes les poches, ça fait donc 10 000 dons qui sont tous les jours testés individuellement. Il n'y a absolument pas plus de risque, c'est la raison pour laquelle cette ouverture se fait.
François Toujas, le président de l'EFS, interrogé par Mélanie Gomez. C'est désormais une urgence sanitaire mondiale. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie Ebola, qui a fait près de 1 700 morts depuis l'été dernier en République démocratique du Congo, l'urgence sanitaire mondiale est une mesure exceptionnelle qui n'a été décrétée que 4 fois seulement par l'OMS, en 2009 pour la grippe H1N1, en 2014 pour la poliomyélite, en 2014 pour l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 300 morts en Afrique de l'Ouest et en 2016 pour le virus Zika. En Asie du Sud, la mousson a déjà fait plus de 270 morts. Les pluies diluviennes causent des glissements de terrain et des inondations. L'Inde est particulièrement touchée. Les sports, on part maintenant sur le Tour de France.
Europe 1.
Le Tour de France avec De Koninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dekoninck.fr.
Il s'en est fallu d'un cheveu, mais c'est bien l'Australien Caleb Ewan qui a remporté tout à l'heure la 11e étape entre Albi et Toulouse. C'était sa première victoire sur la grande boucle. Julien Alaphilippe reste en jaune avant les Pyrénées demain. De son côté, le Toulousain Anthony Pérez a passé 150 km dans l'échappée, accompagné par son camarade Lilian Calmejane, originaire lui d'Albi. Et donc Anthony Pérez était extrêmement fier.
C'était important parce que je suis à domicile, je suis à 4 km de la maison et voilà, c'était une belle journée à passer à l'avant. Je m'en doutais que Lilian allait vouloir attaquer aussi, donc voilà, on s'est retrouvés au fictif à l'avant et on y allait ensemble. Il y a tout le monde à l'arrivée qui est venu me soutenir, donc j'entendais un peu mon nom au bord du route et voilà, c'était cool. Le cyclisme moderne, c'est extrêmement difficile. Le public peut-être se rend pas compte des vitesses, mais déjà faire... Une échappée, c'est très difficile, même si c'est kilomètre zéro, on a l'impression qu'on nous a laissé partir, mais c'est jamais simple.
Anthony Pérez au micro de notre envoyé spécial sur le Tour, Marguerite Lefebvre. C'était le parrain du Polar, l'écrivain Andrea Camilleri, est mort aujourd'hui à l'âge de 93 ans à Rome. Conteur né, truculent, caustique, le créateur du Commissaire Montalbano a écrit plus de 100 livres, réalisé plus de 100 spectacles théâtraux. Il racontait la Sicile dans une langue bien à lui que toute la péninsule adorait. Serge Quadrupani était son traducteur. Il lui rend ce soir hommage.
Je crois que c'est à la fois un grand écrivain populaire et un grand écrivain tout court. Ce qui ne va pas toujours ensemble, c'est ce que je dis souvent aux Italiens, vous ne vous rendez peut-être pas compte de la chance que vous avez. Vous avez un personnage, quelqu'un qui est à la fois Alexandre Dumas et Victor Hugo, d'une certaine manière. Il a fait redécouvrir aux Italiens, qui étaient un peu en train de perdre de vue, la valeur d'un trésor qu'ils ont, c'est le trésor des différentes langues régionales. On a beaucoup de mal dans notre France très homogène à imaginer à quel point les langues régionales sont d'une richesse incroyable et vécues quotidiennement par beaucoup de monde.
Serge Quadrupani, le traducteur de l'écrivain Andrea Camilleri, qui est donc mort aujourd'hui. C'est le nouveau défi des studios Disney. Un investissement à 250 millions de dollars. Près de 1000 copies en France aujourd'hui pour tenter de faire encore mieux qu'Avatar. Avatar, c'est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Vous aurez reconnu Simba, le roi lion, qui revient un quart de siècle plus tard, version tout numérisée et en 3D. Ça pourrait être le film le plus vu en France cette année. Mathieu Charrier, allez, premier bilan. Est-ce que le roi lion a réussi sa sortie aujourd'hui ?
Eh oui, plus que réussi. Hein. Près de 125 000 Français ont déjà été voir le roi lion ce matin, dont 25 000 franciliens. C'est tout simplement le meilleur démarrage, deuxième meilleur démarrage de l'année. Juste derrière Avengers, mais on sait que les Avengers y partent très fort et après ça se tasse un peu. Là, nul doute que ça va continuer tout l'été. Et puis c'est sûrement loin d'être terminé. En croire les spectateurs interrogés par Caroline Baudry à la sortie des premières séances, tous ravis.
Moi j'ai trouvé ça génial. Ils sont restés fidèles au scénario, ce qui est fort appréciable.
Ça m'a fait tout bizarre de revoir mon enfance, quoi.
Quand son père il est mort, j'ai un peu pleuré.
Franchement, les images de synthèse sont vraiment à couper le souffle.
On aurait dit des vrais animaux.
C'est de super paysages, magnifiques.
J'ai reconnu Hakuna Matata.
J'ai aimé les chansons et je les connaissais déjà.
Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata.
Voilà, précisons que le Roi Lion est la sortie Disney de cet été, projetée sur près de 1000 écrans. Quand vous savez qu'en France, il y en a un peu plus de 5000, c'est tout simplement un raz-de-marée. Et puis aussi une communication, il faut bien le dire, bien huilée, puisque le premier dessin animé d'il y a 25 ans a été projeté pour la première fois à la télé lundi soir dernier, qu'il a rassemblé près de 5 millions de téléspectateurs. Donc, on va rugir tout l'été.
Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique.
Ce mot signifie que tu vivras ta vie.
Ouais, chante petit, sans aucun souci.
Philosophie, Hakuna Matata.
Hakuna Matata, et c'était Mathieu Charrier, le spécialiste cinéma d'Europe 1. Et je me tourne maintenant vers vous, Hélène Amorna, pour la météo. La semaine prochaine, ce sera canicule dans toute la France, mais pour demain, on passe du tout bleu au tout gris pour le Nord-Ouest, Hélène. Alors c'est sûr, ça va vous faire tout drôle, hein, notamment sur la Bretagne, où ça fait belle lurette qu'on n'a pas vu de bons gros nuages. Alors oui, voilà une perturbation et sa cohorte de nuages qui abordent la Bretagne et les bords de Manche cette nuit avec des petites pluies éparses. Alors ces nuages dureront le temps d'une matinée, hein, revoilà les éclaircies sur le littoral l'après-midi. Nuages et averses qui s'étendront de la Loire-Atlantique au bassin parisien et Hauts-de-France l'après-midi. Et plus on ira vers le sud, plus il fera beau, quoique d'autres nuages à signaler sur le sud-ouest en matinée et beau l'après-midi, mais toujours une averse possible sur les reliefs des Pyrénées ou ceux des Alpes du Sud. Nos nuages vont faire office de couverture et la nuit sera douce, 11 à 20 degrés au lever du jour. Nuages qui empêcheront en revanche l'envolée des températures l'après-midi avec 20 degrés à Boulogne-sur-Mer, 22 à Quimper et au Havre, 23 à Nantes et Lille, 25 à Bordeaux, 26 à Paris, 28 à Bourges et Toulouse, 29 pour Strasbourg et Bastia, 32 pour Lyon-Marseille, 35 pour Nîmes, des températures qui vont remonter de plus belle ce week-end avec un nouvel épisode de canicule en tout début de semaine prochaine.
Merci Elena Morna.